Mes auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission sur les Pères de l'Église. Nous sommes dans la deuxième aux Corinthiens et nous acheminons vers la fin de l'épître commentée par Jean Chrysostome, puisque nous verrons aujourd'hui les chapitres 8 et début chapitre 9. Dix-huitième homélie. Et grâce soit rendue à Dieu qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite. Voici encore l'apôtre qui donne des éloges à Tite. Après avoir parlé de l'aumône, il parle de ceux qui doivent recevoir et emporter leurs offrandes. Cela était dans l'intérêt de la collecte, cela augmentait le zèle de ceux qui y contribuaient. Quand nous avons confiance dans le dispensateur, quand nous ne soupçonnons pas les personnes qui recueillent nos dons, nous y mettons plus de libéralité. Pour obtenir ce résultat, écoutez comme l'apôtre leur recommande les gens qui sont allés les trouver dans ce but, et parmi lesquels Tite est le premier. Il dit « Et grâce soit rendue à Dieu qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite. » Que veut-il dire par le même zèle? Le même que Tite avait pour les habitants de Thessalonique, ou bien encore Paul voulait-il dire aux Corinthiens « Un zèle semblable à celui que j'ai moi-même pour vous ?» Et remarquez sa sagesse, ayant montré que c'était l'œuvre de Dieu, il le remercie d'être l'auteur de cette grâce pour les exciter encore par ce moyen. Car si c'est Dieu qui a inspiré Tite et qui l'a envoyé vers vous, c'est donc Dieu qui vous demande par l'organe de Tite. Ne pensez donc pas que ce qui est arrivé soit quelque chose d'humain. Et à quel signe reconnaît-on que c'est Dieu qui a poussé Tite à agir de la sorte ? Le voici, car non seulement il a bien accueilli mon exhortation, mais plus ailé encore lui-même, il est parti de son propre mouvement. Verset 17. Voyez comme il le représente accomplissant son œuvre personnelle sans avoir besoin d'autrui. Mais comme saint Paul avait dit que c'était une grâce de Dieu, il ne la laisse pas attribuer à Dieu tout entière, afin de leur inspirer encore plus d'affection pour Tite en leur disant que ce dernier s'y est porté de lui-même. Nous avons aussi envoyé avec lui notre frère, dont la réputation dans l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Verset 18. Quel est ce frère? Les uns veulent que ce soit saint Luc, qui serait désigné ainsi à cause de l'Évangile qu'il écrit. Selon d'autres, il s'agit de Barnabé et ses prédications, quoique non écrites, serait ce que saint Paul appelle ici l'Évangile. Et pourquoi ne donne-t-il pas les noms de ceux qui l'envoient avec Tite? Peut-être n'était-il pas connu des Corinthiens. Alors il n'insiste pas sur leur éloge, parce que les Corinthiens n'ont pas encore été à même de les apprécier. Il n'en dit que ce qui suffisait pour les recommander et les mettre à l'abri de tout mauvais soupçon. Mais voyons en quoi il fait consister l'éloge de celui des coopérateurs de Tite dont il parle en premier. De quoi le loue-t-il? De sa prédication d'abord, et il le loue non seulement de prêcher, mais de le faire comme il faut et avec le zèle convenable, car il ne dit pas « et il prêche et il évangélise », mais il parle de sa réputation dans l'Évangile. Et de peur que cela ne paraisse une flatterie, il prend à témoin non pas un seul homme, ni même deux ou trois hommes, mais les églises entières. Notre frère, dont la réputation dans l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Ensuite, il le rend respectable en raison du choix que l'on a fait de lui, ce qui n'est pas non plus un faible honneur. Aussi, après avoir dit « dont la réputation dans l'Évangile est répandue dans toutes les églises », il ajoute « et non seulement cela », verset 19. C'est comme s'il disait « non seulement il est respectable parce qu'il est renommé pour sa prédication et que tout le monde fait son éloge, mais encore il a été choisi par les églises avec nous », verset 19. C'est ce qui me porte à croire qu'il est question de Barnabé. Et saint Paul représente la mission de ce frère comme considérable, car il indique pourquoi on l'a élu. C'est, dit-il, afin de nous accompagner dans nos voyages et de coopérer avec nous dans cette grâce que nous dispensons. Verset 19. Voyez-vous quel éloge! Il s'est illustré en annonçant l'Évangile, et toutes les églises lui en ont donné un témoignage. Il a été choisi pour la même œuvre que saint Paul. Associé partout à ce dernier, il a partagé ses épreuves et ses périls, car le mot de voyage donne à entendre tout cela. Et que signifie « afin de coopérer avec nous dans cette grâce que nous dispensons » c'est-à-dire pour annoncer la parole et prêcher l'Évangile, ou bien pour distribuer les aumônes? Je crois même qu'il s'agit de l'un et de l'autre but. Saint Paul ajoute ensuite « pour la gloire du Seigneur lui-même et dans l'intérêt de votre zèle », verset 19. Cela signifie « et pour que Dieu soit glorifié et pour que vous deveniez plus zélés ». En voyant que les hommes qui reçoivent ces aumônes sont connus et que personne ne peut faire naître contre eux aucun soupçon injuste. C'est pour cela que nous avons cherché de tels hommes et que nous n'avons pas confié le tout à un seul, car nous voulions qu'il échappât à un pareil soupçon. Mais nous avons envoyé Tite et avec lui un autre. Puis, pour expliquer ces mots, pour la gloire du Seigneur et dans l'intérêt de votre zèle, il ajoute « Ayant ceci pour but, que personne ne nous blâme dans cette abondance que nous dispensons. » Verset 20. Quel est ce langage? Il est digne de la vertu de Paul, et il montre sa grande sollicitude et sa condescendance. « Pour que personne, veut-il dire, ne vous soupçonne et ne dirige contre nous quelque blâme, comme si nous détournions une partie de l'argent qui nous est confiée. Pour ce motif, nous avons envoyé des hommes de ce caractère. Pour ce motif, nous en avons envoyé non pas seulement un, mais deux, mais trois. » Nous avons aussi envoyé avec eux notre frère. En voilà donc un troisième, qu'il adjoint aux deux autres, également avec éloge et avec son suffrage, et celui de plusieurs autres témoins. Que nous avons, dit-il, éprouvé souvent en maintes circonstances comme un homme zélé et à présent bien plus zélé encore. Verset 22. Après avoir loué les mérites personnels de ce frère, il l'exalte en raison de sa charité pour les Corinthiens. S'il s'agit de Tite, il est mon coopérateur et il travaille avec moi pour vous. Verset 23. Que signifie s'il s'agit de Tite? Voici le sens. S'il faut parler de Tite en quelque chose, j'ai à dire qu'il est mon coopérateur, qu'il travaille avec moi. Ou bien encore, il entend par là, si vous faites quelque chose pour Tite, vous n'aurez pas obligé le premier venu, car il est mon coopérateur. Et tout en ayant l'air de le louer, il vante les Corinthiens, en montrant que leurs dispositions envers lui sont telles qu'il suffit pour leur donner lieu d'honorer quelqu'un, de leur faire voir en cette personne le coopérateur de Paul. Toutefois, il ne s'en tient pas encore là et il ajoute cet autre motif. Il travaille avec moi pour vous. Non seulement il travaille avec moi, mais c'est pour des affaires qui vous regardent. C'est pour votre progrès, pour votre avantage. C'est par amitié, par zèle pour vous. Il leur dit tout ce qui était le plus capable de lui gagner leur affection. S'il s'agit de nos frères, verset 23, c'est-à-dire, ou bien si vous voulez que je vous parle des autres, ils ont aussi les plus grands droits à vous être recommandés. En effet, eux aussi sont nos frères, eux aussi, ils sont des apôtres des églises, c'est-à-dire envoyés par les églises. Puis ce qui est au-dessus de tout, la gloire du Christ, car c'est à Jésus-Christ que se rapporte tout ce qui leur arrive. Soit donc que vous vouliez les accueillir comme des frères ou comme les envoyés des églises, soit que vous le fassiez pour la gloire du Christ, vous avez de nombreux motifs de bienveillance à leur égard. Car j'ai à dire de Tite qu'il est mon coopérateur et votre ami dévoué, et j'ai à dire des autres qui sont nos frères, qui sont les apôtres des églises, qu'ils sont la gloire de Jésus-Christ. Il ajoute « Prouvez-leur donc à la face des églises quelle est votre charité et la gloire que nous mettons en vous. » Verset 24. C'est-à-dire, faites voir maintenant d'une part combien vous nous aimez et de l'autre, combien l'orgueil que nous avons conçu de vous est légitime et fondé. Or, vous prouverez tout cela si vous montrez de la charité envers eux. Il donne à son langage quelque chose de plus redoutable en ajoutant « à la face des églises ». C'est-à-dire, c'est, dit-il, pour la gloire et l'honneur des églises, car si vous honorez nos frères, vous honorerez les églises dont ils tiennent leur mission. En effet, l'honneur qu'on rend aux envoyés ne s'arrête pas à eux, il va jusqu'à ceux qui les délèguent, qui les ont choisis, il va plus loin encore, il rend gloire à Dieu même. Honorer les ministres de Dieu, c'est faire monter nos louanges jusqu'à lui. Dix-neuvième homélie, car à l'égard des services que l'on rend aux saints, il est superflu que je vous écrive. Chapitre 9, verset 1. Après avoir dit, il est superflu d'écrire, voyez ce qu'il ajoute, car je connais votre bonne volonté pour laquelle je me glorifie de vous auprès des Macédoniens. Verset 2. C'est déjà beaucoup que lui-même connaisse cette bonne volonté, mais c'est encore bien plus qu'il aille la redire aux autres. Elle n'en acquiert que plus de force, car les Corinthiens ne voudraient pas encourir une telle honte que de ne pas justifier cette réputation. Vous avez vu comme ils les stimulent les uns par les autres, les Macédoniens à l'aide des Corinthiens et réciproquement, et comme à l'émulation, ils sait joindre les plus grands éloges. Puis, pour ne pas les enorgueillir, il met un certain correctif en disant « L'émulation venue de vous a excité le plus grand nombre. Songez un peu ce que serait pour vous, après avoir fait naître cette noble ambition chez les autres, de vous laisser dépasser à l'occasion de cette offrande. » C'est pourquoi il ne dit pas « Imitez les Macédoniens », car cela n'eût pas été aussi propre à les piquer d'honneur. Et que leur dit-il ? Ce sont les Macédoniens qui vous ont imités. Ne vous montrez donc pas, vous les maîtres, au-dessous de vos disciples. Voyez en même temps, comme pour les réveiller, pour augmenter leur ardeur, il fait semblant de prendre parti pour eux. On dirait une lutte, une rivalité, dans laquelle ils se rangent de leur côté. Car de même qu'ils lisaient plus haut, ils sont venus nous trouver de même et avec beaucoup d'instance, de sorte que nous avons engagé Tite à achever cette grâce comme il l'avait commencé. De même, il dit ici, c'est pourquoi j'ai envoyé nos frères, afin que nous ne soyons pas vraiment glorifiés en vous. Chapitre 9, verset 3. Voici le sens de ce qu'il dit. Je suis extrêmement fier de vous, je m'en fais honneur devant vous, je m'en suis glorifié devant les Macédoniens, de sorte que si vous vous laissez vaincre, la honte sera tout ensemble pour vous et pour moi. Et ici encore, il mesure ses expressions, car il ajoute « sous ce rapport » et non pas en toute chose, afin que, comme je le disais, vous soyez préparés. Verset 3. Car je n'ai pas dit que les Macédoniens se proposent d'agir, mais bien que tout est disposé et qu'il ne leur manque plus rien pour l'exécution. Je veux donc que vos œuvres soient là pour témoigner que vous êtes prêts. Puis les inquiétudes de l'apôtre redoublent. De peur, ajoute-t-il, que si les Macédoniens viennent avec moi, nous ne soyons, car je ne veux pas dire vous ne soyez, couverts de confusion de ce que nous nous serons glorifiés de vous sous ce rapport, verset 4. Cela nous impose davantage quand on nous donne de nombreux spectateurs, et ceux-là même à qui l'on a parlé de nous. Voyez comment il les attire, non seulement par des raisons spirituelles, mais encore par des motifs humains. Si vous ne faites pas grand cas de moi et que vous comptiez sur mon indulgence, songez du moins aux Macédoniens, de peur que s'ils viennent, ils ne vous trouvent, non pas, dit-il, de mauvaise volonté, mais seulement non préparés, n'ayant pas encore tout accompli. Et s'il serait honteux de n'avoir pas apporté votre offrande promptement, imaginez combien vous auriez à rougir si vous n'en apportiez aucune ou si elle était trop faible. J'ai donc cru nécessaire d'envoyer par avance nos frères, afin qu'ils préparent cette bénédiction et vos offrandes, de telle sorte qu'elles soient prêtes à titre de bénédiction et non pas comme arrachées à votre avarice. Verset 5. C'est la même pensée, reprise d'une autre façon. Et pour que l'on ne croie pas qu'il tient ce langage au hasard, il va jusqu'à dire que ce voyage n'a pas d'autre motif que de leur épargner la confusion. Ensuite, il passe à l'autre point, la largesse dans l'offrande. Or, je vous dis ceci, verset 6, c'est-à-dire, à cette première considération, j'en ajoute une seconde, et laquelle ? Celui qui sème mesquinement, moissonnera mesquinement, et celui qui sème au milieu de la bénédiction, moissonnera au milieu de la bénédiction. Il ne dit pas sordidement, il se sert d'une expression adoucie, celle qui caractérise l'homme parcimonieux. Il compare l'aumône à des semailles, afin qu'aussitôt cela vous fasse envisager la rétribution, et qu'en songeant à une moisson, vous sachiez que vous recevrez en retour plus que vous n'avez donné. Voilà pourquoi il ne dit pas « celui qui donne », mais « celui qui sème ». Et il ne dit pas non plus « si vous semez », mais il parle d'une manière générale. Au lieu de dire « abondamment », il emploie cette expression « au milieu des bénédictions », ce qui était bien plus. Puis il se rejette encore sur la première condition, celle de le faire l'aumône avec joie. Il dit « que chacun donne selon la détermination de son cœur ». Verset 7. En effet, nous faisons plus quand on nous laisse libre que lorsque nous sommes contraints. Aussi insiste-t-il sur ce point. Car après ces mots, selon la détermination de son cœur, il ajoute « non avec chagrin ni par force ». Et non content même de cela, il y joint encore ce témoignage tiré de l'Écriture « car Dieu aime celui qui donne avec joie ». Et il ne se borne pas à des conseils, mais comme toujours, il fait des vœux pour eux. Et Dieu, dit-il, a le pouvoir de vous combler de toute grâce. Verset 8. Par cette prière, il fait tomber un argument où l'on se retranche contre cette générosité et qui, encore maintenant, arrête plusieurs personnes. Bien des gens craignent de faire l'aumône parce qu'ils se disent « j'ai peur de devenir pauvre moi-même et d'avoir besoin des autres à mon tour ». Eh bien, pour dissiper cette crainte, il ajoute cette prière « Dieu a le pouvoir de faire abonder toute grâce en vous ». Non pas simplement de vous combler, mais de faire abonder en vous. Et qu'est-ce que faire abonder la grâce ? C'est-à-dire vous enrichir de tant de faveurs que vous puissiez exercer abondamment cette générosité, afin qu'en toute chose et toujours, ayant tout ce qui vous suffit, vous abondiez en toute bonne œuvre. Voyez encore dans ce souhait la grande sagesse de l'apôtre. Ils ne leur désirent pas la richesse ni le superflu, mais tout ce qui leur suffit. Et ce n'est pas seulement par là qu'il est admirable, car si d'une part il ne leur a pas souhaité le superflu, il ne les surcharge pas non plus. Il ne les force pas à donner de leur indigence même, parce qu'il condescend à leur faiblesse. Il demande pour eux des ressources suffisantes, et il fait voir en même temps qu'il ne faut pas abuser des dons de Dieu, afin, dit-il, que vous abondiez en toute bonne œuvre, c'est-à-dire « je vous souhaite ces biens, afin que vous en fassiez part à d'autres ». Et il ne dit pas seulement « afin que vous en donniez », mais « afin que vous abondiez ». Oui, s'ils leur souhaitent le nécessaire quant aux choses matérielles, ils demandent que dans l'ordre spirituel, ils aient même du superflu. Non pas seulement en fait d'aumône, mais sous tous les autres rapports, car c'est le sens de cette expression « en toute bonne œuvre ». Ensuite, à l'appui de cette pensée, et voulant un témoignage qui les détermine à la libéralité, il fait intervenir la parole du prophète. C'est pourquoi il ajoute « selon qu'il est écrit, il a dispersé son bien ». Il a donné aux pauvres, sa justice demeure dans la suite des siècles, verset 9. Cela revient à ce qu'il disait, afin que vous abondiez, car l'expression « il a dispersé » ne signifie pas autre chose que donner avec libéralité, car si les richesses ne subsistent pas, leur résultat subsiste. Chose admirable en effet, celle que l'on garde se perde, et celle que l'on disperse demeure, et demeure pour toujours. Ce que le prophète appelle ici justice, c'est la charité envers le prochain. En effet, la charité nous justifie parce que c'est un feu qui détruit nos péchés quand nous répandons largement nos aumônes. Ainsi, n'y regardons point, mais donnons à pleine main. Répandons nos largesses, donnons aux pauvres comme il faut donner. Car Dieu n'évalue pas la grande ou la petite quantité à la mesure de ce que l'on nous donne, mais aux mesures de celui qui donne. Souvent donc, vous qui avez apporté 100 statères d'or, vous avez moins sacrifié que cet autre qui n'a remis qu'une obole, car vous avez pris sur votre superflu. Mais n'importe, même dans ces conditions, donnez toujours, vous en viendrez bientôt à plus de munificence. Répandez vos richesses pour faire provision de justice. La justice ne saurait se trouver en compagnie des richesses. Elle nous arrive par les richesses, mais non point avec elles. Il n'est pas possible que l'amour des richesses et la justice habitent ensemble. Leur domaine est distinct. Ne vous acharnez donc pas à réunir des choses incompatibles, mais expulsez l'avarice qui est une usurpatrice, si vous voulez accueillir la justice qui est la souveraine légitime. Oui, c'est elle la véritable reine qui d'esclave nous rend libres. L'avarice fait tout le contraire. Employons donc tout notre zèle à fuir l'une et à nous attacher à l'autre, afin de jouir de la libéralité ici-bas et de posséder ensuite le royaume des cieux. Puissions-nous tous obtenir cette faveur par la grâce et la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel gloire, puissance et honneur au Père ainsi qu'au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà ces passages sur la collecte menée par Paul pour la communauté de Jérusalem qui n'ont rien perdu de leur actualité et qui analysent le rapport du chrétien à l'argent quand il dit que vos bénédictions ne soient pas arrachées à votre avarice, mais qu'elle vous prépare la bénédiction, et aussi tout ce qui est dit ici sur la justice qui vient qui arrive par les richesses, mais non point avec elle. Car ce qui vient avec l'argent, c'est l'avarice. La justice peut arriver donc par les largesses que font les disciples, les chrétiens. Donc, chers amis auditeurs, nous refermons notre émission pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Toujours même endroit, même lieu, même heure. Au revoir.